France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions politiques. Quasiment un mois depuis la nomination de Sébastien Lecornu, les Français n'ont vraiment entendu le son de sa voix que vendredi dernier sur le perron de Matignon. Et ils attendent toujours de savoir à quoi ressemblera le gouvernement, ce qui pourrait n'être qu'une question d'heure, dernière ligne droite pour le Premier ministre, dans une tension maximale, avec le Parti Socialiste qui n'a pas été adouci par l'abandon du 49-3, et le Rassemblement National qui confirme qu'il pourrait censurer. Même les alliés étalent au grand jour les tiraillements du bloc central et donnent de la voix. Sébastien Lecornu, qui se présente lui-même comme le Premier ministre le plus faible de la Ve République, a donc envoyé, cette nuit, une feuille de route au socle commun, un appel à l'unité. Est-ce suffisant pour calmer le jeu? Les partenaires d'aujourd'hui croient-ils vraiment à l'avenir d'une équipe Lecornu? Il y a un scénario où ce gouvernement ne survivrait pas plus d'une semaine. On en parle avec un homme au cœur des discussions, c'est le patron des députés Modem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau. Et dans Questions politiques, c'est en direct sur France Inter, France Info, la télé, le Canal 16 et en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
France Inter, Questions politiques, Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Marc Fesneau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à
mes côtés pour vous interviewer, je les salue, Brigitte Boucher de France Télévisions. Bonjour Brigitte.
Bonjour Alexandra.
Grâce à vos questions, nous allons en apprendre plus tout à l'heure sur Marc Fesneau.
Oui, le démocrate chrétien fidèle de François Bayrou a plus d'une corde à son arc. On verra si quand il vise, il touche.
Et Abel Mestre du Monde est également en plateau avec nous. Bonjour Abel.
Bonjour Alexandra.
Avec vous tout à l'heure, on mettra en lumière, comme à chaque fois, une des grandes questions qui sera dans le débat de la présidentielle, j'ose pas dire 2027, mais c'est l'idée. Alors aujourd'hui, quelle question ?
On se demandera quelle place occupera le centre et le centrisme pour la prochaine élection présidentielle.
Marc Fesneau, on entre dans le vif du sujet parce que l'actualité va vite. Vous avez fait monter la pression hier soir avec une lettre cinglante signée de vous, du Modem, envoyée à Sébastien Lecornu. Vous demandez des gages avec des mots comme transparence, sincérité, clarification. Pourquoi ce coup de sang ?
C'est pas un coup de sang, je pense qu'on a besoin d'abord un peu éclairé de ce qui s'est passé avec le gouvernement Barnier et puis avec le gouvernement Bayrou, d'être au clair sur ce sur quoi on s'engage. Qu'est-ce qui s'était passé en septembre 2024? Je l'avais dit d'ailleurs autour d'une table, on avait dit que c'était la réunion de la dernière chance pour former le gouvernement. J'avais dit il faudrait quand même qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce qu'on va porter ensemble, qu'on dise ce sur quoi on n'est pas d'accord, qu'on essaye de voir ce qu'on peut trancher dans cette temporalité-là, et qu'est-ce qui sera tranché, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans la présidentielle de 2027. Un an après, force est de constater qu'on reste avec ces interrogations-là. Et donc la volonté, au travers de ce courrier, c'est de dire au Premier ministre, essayez d'éclairer, même si c'est difficile, parce qu'il a à la fois la nécessité de consolider un socle, et deuxièmement, de laisser la porte ouverte à des discussions, en particulier avec la gauche, on va dire, de gouvernement. Mais on a besoin de savoir sur quoi on s'engage, parce qu'on a vu dans l'année qui s'est passée à quel point parfois, à l'intérieur du SOC, il y avait des tiraillements, et parfois on pensait qu'on était d'accord sur tel ou tel sujet, et nous ne l'étions pas. On n'était pas forcément d'accord à l'automne dernier, pour ne citer qu'un exemple, sur la question de la fiscalité. Nous disions ce que nous continuons à dire, qu'il y avait besoin de répartir plus justement l'effort fiscal, et d'autres disaient aucun effort fiscal supplémentaire. Et au final, d'ailleurs, il y a eu cet effort fiscal.
Là, vous avez un ton très placide, très clair.
Mais c'est mon tempérament.
C'est votre tempérament. Néanmoins, dans la lettre, c'est un autre tempérament qui s'exprime. Vous dites, on ne veut pas, nous, au Modem, être une variable d'ajustement.
Non,
c'est ce que vous dites,
Sébastien
Lecornu.
On ne peut pas être, nous, dans le socle, la variable d'ajustement d'accord ou de discussion. Mais c'est le socle, c'est pas que le Modem. Et je parle au nom de ma famille politique, de discussions qui peuvent avoir lieu d'une part avec les Républicains, et c'est normal qu'il y ait des discussions avec les Républicains, ils sont embarqués avec nous depuis un an, mais aussi avec le Parti Socialiste, puisque le Premier ministre, à juste titre, a ouvert un certain nombre de discussions et de débats avec le Parti Socialiste. Donc on peut pas s'engager dans le budget sans savoir précisément, ou un peu plus précisément, ce qui a été fait. Alors le Premier ministre a donné un certain nombre de pistes et d'orientations. Mais
cette
on a besoin,
oui,
dans le détail, quand même, d'en savoir un peu plus, probablement la déclaration de politique générale, parce qu'on va s'engager dans un budget, je le dis, le Premier ministre a eu raison de le dire, 149-3. C'est à la fois un pari, mais c'est aussi un risque.
On va y venir au 49-3, mais quand même, cette feuille de route, donc vous mettez un coup de pression, les LR aussi mettent un coup de pression, ils disent, nous, notre participation n'est pas acquise, ils vont en discuter en début d'après-midi. Première question, c'est, est-ce que le socle commun, il peut exploser ?
Moi, je ne crois pas, parce que vous ne nous trouverez pas, nous, en tout cas, tenant du chaos. Deuxième élément, ce n'est pas un chantage que je fais. ce n'est pas un chantage à la participation au gouvernement. Il est naturel que cette formation politique participe au gouvernement. Mais il est naturel aussi que nous disions quelle est la feuille de route collective que nous nous donnons pour un peu avoir de discipline entre nous, parce que c'est mieux d'avoir de la discipline entre nous, y compris pour pouvoir ouvrir à d'autres. Parce que si entre nous, on n'est pas tout à fait au clair sur ce qu'on veut faire sur la fiscalité, sur ce qu'on veut faire sur le pouvoir d'achat, sur ce qu'on veut faire sur... Parce que c'est ça qui est central, et c'est ce qu'avait très bien dit François Bayrou, la réduction des dépenses, parce qu'on ne peut pas procéder uniquement par imposition.
Et on va ouvrir chacun des dossiers.
On va ouvrir ces chapitres, mais c'est pour ça qu'on a besoin de le faire. Il me semble que c'est un élément important, mais nous... sommes dans la volonté depuis 8 ans, donc on est très à l'aise pour le dire, de ne pas participer du chaos. Donc c'est pas un chantage, on a besoin simplement, parce qu'on va avoir un débat...
Il y aura des ministres modem, soyons très clairs, dans quelques heures.
En tout cas, c'est la configuration dans laquelle nous sommes, et je trouve ça normal, légitime, et je sais que Sébastien Lecornu est très attentif à trouver les équilibres au gouvernement. La question, c'est de dire, on s'engage.
Aujourd'hui, vous avez
la question, c'est on s'engage, mais on s'engage avec une feuille de route qui soit un peu plus balisée.
Est-ce qu'elle est balisée, la feuille de route qu'on vous a envoyée cette
Alors,
nuit ?
Le Premier ministre a donné un certain nombre d'éléments de balise sur les questions fiscales, en disant qu'il souhaitait plutôt la stabilité fiscale et à l'intérieur de faire des bougies, qu'il souhaitait avoir des mesures sur le pouvoir d'achat, qu'il souhaitait regarder ce qu'on pouvait faire en termes de réduction de dépenses. On est plutôt dans le registre d'un certain nombre de généralités qu'on peut partager, mais après, il va falloir rentrer dans le détail.
Vous les aviez déjà, en réalité, cette feuille de route, soyons un peu plus clairs.
Moi, je n'avais pas besoin d'être rassuré de ces éléments globaux. Ce dont on a besoin de parler... dans les jours et dans les semaines qui viennent, c'est qu'est-ce qu'on va défendre les uns et les autres dans ce qu'on pourrait qualifier de chaudron à l'Assemblée nationale. Il vaut mieux, pour qu'on puisse parler aux autres, je le répète, que nous soyons clairs sur ce que nous défendons collectivement pour ceux qui participeront au gouvernement.
Et pour, justement, à propos de ceux qui participeront au gouvernement, et pour savoir dans quel sens va pencher cette équipe Lecornu, dont vous nous dites ce midi que vous ferez partie, hier après-midi, on a le ministre démissionnaire de l'aménagement du territoire, c'est François Rebsamen, qui annonce avoir informé le Premier ministre de sa décision de ne pas faire partie du gouvernement. Il justifie ce choix par, je cite, ses convictions d'homme de gauche attaché à la justice fiscale et sociale. Bon, ça veut dire que la feuille de route de Sébastien Lecornu, elle penche à droite, déjà ?
Il a envoyé ce courrier avant que Sébastien Lecornu n'envoie sa feuille de route. Peut-être qu'il a trouvé qu'il avait fait la part du chemin qu'il devait faire. Je connais bien François Rebsamen, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, donc je ne me trouverai pas à dire un mot de travers sur ce sujet-là. Est-ce qu'il a peut-être, il s'est peut-être interrogé sur le point d'équilibre que pouvait être, non pas seulement le gouvernement, parce que ce n'est pas une affaire de gouvernement, c'est une affaire de politique qu'on mène, en fait. Or, on est sous la contrainte d'une majorité qui n'existe pas. Et donc, comment on ouvre le champ pour pouvoir discuter, en particulier avec les socialistes ? C'est ça la question, et c'est peut-être cette question-là qui ne trouvait pas réponse chez François Rebsamen. Mais nous continuons à penser qu'il doit y avoir un chemin, parce que s'il n'y a pas de chemin, il y a un chaos.
Alors, justement, le chaos. Les socialistes, ce matin, Olivier Faure, dans Le Parisien, affirme que si la donne ne change pas, nous dirigeons tout droit vers la censure. Même tonalité dans le Journal du Dimanche, du côté du Rassemblement National. Cette possibilité que Sébastien Lecornu tombe après un seul mois à Matignon, est-ce qu'elle ne devient pas de plus en plus forte,
mais
Marc Fesneau
que d'une façon assez symétrique, le Rassemblement National et la France Insoumise passent leur temps
et le PS.
À... Attendez, je vais vous répondre sur le PS. J'ai bien noté que vous me parliez du PS,
absolument.
Mais que la France Insoumise et le Rassemblement National passent leur temps à chercher le chaos, parce qu'en fait, ils se nourrissent du chaos. Et que les uns cherchent la révolution et les autres cherchent une élection qui les rendrait vainqueurs une bonne fois pour toutes, si je peux dire. Ça n'est pas le cas, c'est pas le choix qu'ont fait les électeurs en 2024. En revanche, le Parti Socialiste, il a une responsabilité particulière. C'est un parti qui a gouverné ce pays pendant plusieurs années, qui a eu à trois reprises les clés de l'Élysée, et qui donc a une responsabilité qui n'est pas celle de nourrir le chaos et de chercher à toute fin le moyen de... se distancier d'LFI sans prendre ses responsabilités pour essayer de continuer à capitaliser un pseudo-avantage électoral. Le Parti Socialiste, il doit, comme nous... Alors, il est dans l'opposition, je le respecte. Il n'a jamais soutenu Emmanuel Macron, je le respecte. Mais en même temps, dans la situation dans laquelle est le pays, on parle là devant vos auditeurs ou téléspectateurs du gouvernement. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir ce qu'on va faire pour eux. Comment on va sortir le pays de l'ornière ? Comment on va réduire la dette ?
Ce matin, ce midi, vous dites quoi au Parti Socialiste, à Olivier Faure ?
Que ça serait mieux, je l'ai dit depuis longtemps d'ailleurs, de sortir des postures et d'essayer de regarder avec l'ensemble de ceux qui veulent éviter le chaos comment on peut trouver un chemin de passage.
Vous trouvez que les...
passage.
Et vous trouvez que les... aujourd'hui on est quand même au troisième Premier ministre depuis la dissolution, on n'a toujours pas de gouvernement, il y a cette tension, ces forces politiques qui sont en train les unes et les autres de faire valoir des demandes. Est-ce que vous trouvez que les hommes politiques, pendant ce temps l'économie patine, sont au niveau du moment, en ce moment ?
C'est difficile parce que je suis dans l'écosystème, donc vous allez dire que je défends ma corporation ou que je la défends pas ou que je m'en détache. Enfin, reconnaissons qu'un certain nombre de prises de position où on fait ou du chantage au chaos ou du chantage à la dissolution ne sont pas des dispositions ou des attitudes qui sont très responsables. Pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui se posent des interrogations d'investissement, il y a des gens qui nous regardent à l'extérieur de nos frontières, et ils ne sont pas tous nos amis, et qui se réjouissent, au fond, du chaos qui est celui du pays, parce que la voix de la France est moins facile à porter, quand à l'intérieur, c'est plus difficile. Et donc, je trouve qu'on est dans un moment historique, pas seulement français, on est dans un moment historique mondial. On voit bien qu'on est dans une grande bascule du monde sur les grands équilibres que nous avions connus depuis la guerre de 45.
Et donc, et là, on n'est pas là.
Ça nécessiterait. J'essaie de faire ma part.
Le personnel
comme le
politique...
colibri, comme disait l'autre.
Ouais.
J'essaie de faire ma part. Je pense qu'il faut qu'on essaie les uns et les autres de s'abstraire de la petite contingence électorale, de la petite tambouille du jour au lendemain ou du très court terme pour essayer de se dire est-ce qu'on aura été, dans ce moment crucial, à la hauteur de ce que peuvent attendre nos concitoyens et est-ce qu'ils nous jugeront pas très sévèrement dans 20 ans, pas dans l'élection prochaine, dans 20 ans, est-ce qu'ils diront pas, mais voyez, ces gens-là, à l'époque, ils auraient pu se mettre d'accord et ils se sont pas mis d'accord. Notre responsabilité, c'est de se mettre d'accord. On a des désaccords. La présidentielle de 2027 tranchera les désaccords. Mais dans l'intervalle, on a un pays à faire tourner. Derrière, il y a des salariés, derrière, il y a des entreprises, derrière, il y a des retraités, des jeunes qui attendent aussi qu'on leur donne un certain nombre de directions. Donc c'est ça, me semble-t-il, notre responsabilité. Je dois à la vérité de reconnaître que je constate pas ça tous les jours, et encore moins et singulièrement à l'Assemblée nationale. Mais l'espoir fait vivre.
Il va falloir se décider rapidement. Marc Fesneau, on ouvre la discussion avec les questions de Brigitte Boucher et Abel Mestre. Question d'Abel.
Oui, dans sa lettre au socle commun de cette nuit, Sébastien Lecornu donne beaucoup de gages aux Républicains, à la droite, notamment sur la sécurité et l'immigration. Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette lettre, ou est-ce que le Modem, la gauche modérée même, si on élargit le centrisme au centre-gauche, c'est un peu les perdants des arbitrages. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu les oubliés de ces premières mesures annoncées ?
On n'est pas dans le détail des mesures. Croire que la question fiscale serait l'apanage de la gauche, ça serait quand même une drôle d'idée. La question que l'impôt soit juste, pardon de le dire, c'est un sujet pour chacune et chacun d'entre nous. Et même à droite, il y a des gens qui disent qu'il y a des efforts à faire et il y a une juste répartition à faire de l'effort, y compris fiscal. La question de la sécurité, vous interrogez les Français de droite, de gauche et d'ailleurs, c'est pas un sujet qui est l'apanage de la droite, pardon de le dire ainsi.
Oui,
le narcotrafic, la violence
de droite
extrêmement émergente. Et extrêmement forte que nous rencontrons, et pas seulement dans les banlieues ou dans quelques banlieues. C'est un sujet dont nous devons nous préoccuper et que nous devons essayer de résoudre. Donc, le mot ne me gêne pas, et qu'on traite ces questions-là, qu'on ait une immigration choisie, maîtrisée. C'est le lot de toute nation que de contrôler ses frontières. Parce que si vous n'êtes pas capable de contrôler vos frontières, vous n'êtes pas capable en plus d'intégrer ceux que vous acceptez sur votre sol. Donc, la question, c'est plutôt dans le détail des mesures.
Mais après, j'entends, François Bayrou avait refusé de faire une loi immigration.
Par exemple, est-ce qu'il y a un accord aujourd'hui à l'Assemblée nationale compte tenu de la configuration sur une grande loi immigration ? Il y en a même certains qui prônent de modifier la Constitution. Il n'y a pas de majorité pour le faire. Ne faisons pas semblant. Il n'y a pas d'accord à l'Assemblée
Donc
nationale.
Donc il n'y aura pas de loi immigration.
Mais je n'ai pas dit ça. D'abord, je ne suis pas chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement. Je dis juste, si on veut essayer de trouver des compromis, n'essayons pas d'aller. On l'a trop fait pendant cette année, au travers soit de projets de loi, et souvent beaucoup plus au travers de propositions de loi, de porter chacun notre étendard pour dire, voyez, je suis de droite, donc je suis du centre, je porte ça, je suis de gauche, je porte ça. Et on sait très bien qu'à la fin, il n'y a pas de majorité trouvable.
Du coup, qu'est-ce qui différencie de François Bayrou, Sébastien Lecornu? Si c'est si on vous suit, il reprend les grandes lignes de ce qu'a été le gouvernement Bayrou. Il ne tranche pas vraiment, c'est un peu flou. Qu'est-ce qui le différencie de son prédécesseur?
On peut peut-être laisser à Sébastien Lecornu le temps de composer son gouvernement, de nous dire dans la déclaration de politique générale ce qu'il veut et de regarder s'il arrive, lui, à trouver un chemin. Mais pour l'instant, reconnaissons que le chemin est difficile. La situation de Sébastien Lecornu, elle est exactement la même que celle qu'a rencontrée François Bayrou ou Michel Barnier. Simplement, nous avons besoin, pour entrer dans ce travail collectif, d'être un peu plus d'accord sur un certain nombre de points pour qu'au moins, quand on va voir les socialistes ou d'autres, qu'on puisse se dire voilà nos lignes et voilà ce sur quoi on veut avancer. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut faire des bougies. Donc, difficile à date de demander à Sébastien Lecornu de... Je trouve qu'on est dans une immédiateté permanente. On voudrait que ce qui n'avait pas marché le 8 septembre marche le 9. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et Sébastien Lecornu le savait quand il est rentré dans cette fonction.
Justement, il se différencie. En tout cas, il dit se différencier sur la méthode. À la fin de sa lettre, il dit ni immobilisme, ni passage en force. Est-ce que l'immobilisme, c'est un message à François Bayrou et le passage en force à Élisabeth
Borne ? Non, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Le pays, depuis 2022, et singulièrement encore plus depuis la dissolution de 2024, il a du mal à faire passer la moindre réforme et le moindre texte. Enfin, je veux dire, c'est pas l'apanage ménage et l'immobilise. C'est trop facile en plus de dire c'est la faute des premiers ministres. C'est nous à l'Assemblée nationale qui avons la capacité à rendre mobiles les choses et à trouver des terrains d'entente. Parce que c'est nous qui nourrissons l'impuissance et l'immobilisme. C'est trop facile de dire c'est la faute de Bayrou, de Barnier et désormais de Le Cornu. C'est la faute de ceux qui ne sont pas capables de s'entendre. Et j'ai entendu par ailleurs le Premier ministre dire, moi, je veux commencer par le quoi avant de commencer par le qui. C'est pour ça que j'interroge sur le quoi et qu'on a quelques éléments dans le texte qui nous a adressé. Parce qu'on a besoin, pour qu'on avance, d'aller sur le quoi. Le qui est assez second pour moi.
Alors justement, le quoi vous dit, on a besoin d'entendre le discours de politique générale. Qu'est-ce que vous attendez comme précision et qu'est-ce que vous ferez s'il n'y a pas ce que vous attendez dans ce discours?
Alors, premier élément, il me semble qu'on a besoin, le sujet principal sur lequel nous butons depuis un an, c'est la question budgétaire. D'ailleurs, les deux gouvernements qui ont chuté, ils ont chuté sur la question budgétaire. On a besoin d'abord d'identifier la trajectoire qui est celle choisie par le Premier ministre en termes de réduction du déficit et donc de la dette. Est-ce qu'on essaie de trouver la trajectoire qui est celle sur laquelle nous nous sommes engagés? C'est un détail.
Les 44
milliards. Nous sommes engagés devant nos partenaires européens et devant nos prêteurs. Parce que si des gens ne nous prêtaient pas d'argent, on ferait bien ce qu'on veut. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a des gens qui nous prêtent de l'argent, non pas simplement pour investir, mais aussi pour payer nos fonctionnaires. Donc vous voyez dans quelles mains on est. Et en plus, c'est des mains étrangères. Donc c'est des gens qui sont quand même pas des bienfaiteurs touches de l'humanité.
Non, bon. Mais ça, il s'est déjà engagé. C'est une quarantaine de milliards, ça ressemble à peu près au plan Bayrou.
Vous attendez un chiffrage?
On a besoin, et c'est la mouture budgétaire qui a été envoyée, si j'ai bien compris, ces jours-ci, ou hier, ou avant-hier, de regarder ces 40 milliards. Est-ce que c'est bien 40 milliards? Parce qu'il nous semble que c'est un état. Je rajoute qu'il y avait une surmarche, quand même, qui est importante, qui est la surmarche défense. Puisqu'il y a 4 milliards de plus pour aller plus loin encore que la loi de programmation militaire. Et deuxième élément, comment ça se répartit? Trajectoire et deuxième élément, comment ça se répartit? Comment ça se répartit en termes d'imposition? Alors, il y a les bougies à l'intérieur et quels sont les efforts qu'on demande à ceux qui sont les plus fortunés? Je rappelle que ça n'a pas été vu par nos concitoyens, mais dès 2025, le budget 2025 voté par Bayrou. Il y a eu une contribution différentielle sur les hauts revenus qui a été mise en place. Donc, deuxième élément. Troisième élément, on a besoin de savoir sur les dépenses, ce qu'on fait. Le Premier ministre a simplement indiqué ce qu'il comptait faire sur les dépenses de l'État. Il a dit 6 à 8 milliards, quelque chose comme ça. Si on veut aller à 35 ou 40, quel est le pas qu'on fait sur... qu'est-ce qu'on fait sur l'année blanche? Alors, j'ai lu et compris...
Vous êtes favorable à l'année blanche.
Je suis favorable à l'année blanche de postulat. Il faut regarder s'il n'y a
pas... Pour toutes les retraites, les petites comme les grandes?
Pas aujourd'hui, je l'ai dit il y a 3 semaines ou un mois avec mon groupe. Mes députés ont dit, on peut peut-être regarder sur les petites retraites s'il n'y a pas un effort moins grand à leur demander. Sauf qu'à ce moment-là, il faut se demander comment on arrive quand même aux 35 ou 40 milliards, ou aux 40 milliards. Donc, où est-ce qu'on trouve des ressources supplémentaires ou des économies supplémentaires? Et je suis satisfait de lire dans ce que je partage que l'essentiel de l'effort est à faire sur la réduction des dépenses. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit regarder. On a la part, 45% en gros de la dépense, c'est la dépense sociale. Qu'est-ce qu'on fait, donc les retraites? Qu'est-ce qu'on fait pour freiner les dépenses de l'assurance maladie? Il y a quand même, ne faisons pas croire aux Français, c'est pour ça qu'on a besoin de le faire d'une certaine façon en transparence, que tout ça va être facile, parce que tout ça va être compliqué. Mais il y a besoin de justice. Et donc c'est tous ces éléments-là sur lesquels il me semble, au-delà de grandes politiques qu'il annonce, la décentralisation, les questions de transition écologique, on a besoin d'avoir quelques précisions. J'imagine que dans la déclaration de politique générale, comme le budget sera présenté devant les commissions dès le 13, on aura des éléments plus précis et plus tangibles. Mais nous serons vigilants à ça.
Mais est-ce que c'est vraiment vous qu'il faut convaincre sur la baisse des dépenses? On a déjà des pistes. Il y a des choses assez concrètes qui ont été transmises au Conseil des finances publiques. Par exemple, il y a des baisses sur la sécurité sociale, des baisses de franchise. Ça, il me semble que vous y êtes favorable. Il y a des baisses de franchise sur les visites médicales, sur les boîtes de médicaments, sur le transport sanitaire. Il y a, semble-t-il, un avantage fiscal pour les malades de longue durée qui pourrait disparaître. Et de l'autre côté, il y a certaines dépenses comme continuer avec la baisse des impôts de production pour les entreprises. Alors, si vous parlez de justice fiscale, est-ce que, par exemple, ce package-là, est-ce qu'il vous convient? Est-ce que vous croyez que c'est avec ce genre de justice fiscale qu'on peut convaincre les socialistes?
Je trouvais que retrouver une trajectoire de baisse des impôts de production, parce que c'est quand même un élément différentiel, parce qu'on n'est pas tout seul sur une île, et on a des concurrents, pas mondiaux, européens d'abord. Mais qu'à ce moment-là, c'est en gros 1 milliard et demi, c'est la baisse des impôts de production.
La CVAE, 1 milliard 100 voilà. De baisse d'impôts de production.
La question, c'est où est-ce qu'on trouve des ressources supplémentaires? Et moi, pour moi, c'est une affaire de glissement, cette affaire-là. C'est comment on fait en sorte que des gens ne viennent pas cacher de l'argent dormant. Jean-Paul Mattei dit souvent ça dans le groupe, la rente. au travers des sociétés mère-fille, c'est des dispositifs très compliqués, où il y a des gens qui, pour éviter de payer l'impôt et pour échapper à l'impôt, font en sorte de cacher cet argent-là, entre guillemets. Tout ça, c'est très légal, mais c'est très de l'optimisation.
La gauche vous dit que l'argent, on le trouve chez les ultra-riches et que c'est pour ça qu'ils sont favorables à la taxe Zuckman. Donc c'est un peu contradictoire de votre point de vue, c'est qu'à la fois il faut aller chercher l'argent, mais on ne va pas le chercher où là où il est.
Non, mais parce que la taxe Zuckman, pardon de le dire, c'est un écran de fumée. D'abord, la plupart des gens vous expliquent que ce n'est pas 20 milliards, c'est sans doute que 5. Et deux, vous vous retrouvez dans la situation de taxer ceux qui investissent dans le capital d'une entreprise. J'ai une entreprise dans mon département qui est en dépôt de bilan, qui a besoin qu'on mette de l'argent au capital. Donc vous allez taxer quelqu'un qui vient essayer de sauver une entreprise avec une taxe Zuckman. Vous croyez qu'économiquement, il y a un truc qui se tient là? Il n'y a rien qui se tient dans
cette
affaire.
Mais là, il y a un objet politique.
Si on pouvait sortir des postures et des no et des mons et des noms, et se dire qu'il y a de l'optimisation, il y a de la rente, est-ce que le pacte Dutreil, il n'y a pas des effets de bord? Est-ce que sur... et que là, ça collecte aussi de l'argent, et essayons de ne pas nous arc-bouter sur un dispositif dont la plupart des économistes, quand même, s'accordent à dire qu'il ne fonctionne pas. Mais je vais vous dire comment il fonctionnerait. Il fonctionnerait s'il y avait une taxe Zuckman mondiale.
Mais la taxe sur le patrimoine financier qui a été proposée par Sébastien Lecornu, elle rapporterait 1,5 milliard. Est-ce que ce n'est pas ridicule par rapport à ce que proposent les socialistes?
C'est pour ça que c'est important de regarder dans l'ensemble des dispositifs. Les sociétés mère-fille, c'est peut-être plusieurs milliards d'euros. Dans le pacte Dutreil, il y a peut-être un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut trouver. La contribution différentielle sur les hauts revenus, je n'ai pas entendu que le Premier ministre souhaitait y renoncer. Donc, la question, ce n'est pas la taxe Zuckman ou le néant. C'est est-ce qu'on collecte, est-ce qu'on fait des effets de bascule entre de l'argent qui sert à la production, CVAE, et qui améliore la compétitivité versus de l'argent qui dort et qui vient enrichir quelques-uns. Et ça, ce n'est pas normal et ça, ce n'est pas juste.
Et là, il y a des questions économiques, Marfeno, mais il y a aussi des objets politiques. Alors, si par exemple, vous avez voulu, il y a quelques minutes, faire un message aux socialistes. Alors, les socialistes, si par exemple, vous n'êtes pas pour la taxe Zuckman, est-ce que vous leur faites un message sur les retraites? Parce que par exemple, eux disent, il faut un débat, il faut revenir sur cette réforme des retraites, on voudrait un débat. Alors, est-ce que ça, par exemple, vous y seriez favorable?
Mais quand vous avez 45%
des dépenses. Et un vote.
Oui, quand vous savez que... On va reprendre un autre chiffre, je ne vais pas abreuver de chiffres, mais sur les 1000 et quelques milliards de dettes supplémentaires qui sont accumulées, 600 milliards, c'est les retraites.
Vous ne répondez pas à ma question.
Attendez, ça veut dire qu'on est obligé de faire un effort sur les retraites? Je suis désolé de dire
que
ceux qui disent aujourd'hui... Parce que c'est là qu'il faut être sincère aussi. Ceux qui font croire qu'il n'y aura pas une nécessité d'effort sur les retraites, que dans tous les pays avec démographie comme la nôtre. On pourrait parler par ailleurs des questions démographiques. Comment on relance une démographie?
Non, mais on peut parler du... Là, je vous appelle... C'était sur l'objet politique.
Et donc, je trouve que s'arc-bouter, là aussi... Alors, nous, on avait proposé une clause de revoyure au groupe Modem. Est-ce qu'on peut regarder si la clause de revoyure, on ne peut pas l'accélérer pour essayer de regarder les choses? Mais croire que ce n'est pas en travaillant plus longtemps... Je rappelle que la réforme Touraine, celle qui était en application avant la réforme d'Elisabeth Borne, il y avait des gens qui partaient à la retraite à 62 ans. En fait, ils ne partaient pas à la retraite parce qu'ils partaient... La moyenne aujourd'hui, c'est 63,8 parce que la décote était trop forte. Vous ne croyez pas que c'était une hypocrisie?
Le sujet, ce sont les compromis. Et
je n'ai pas de difficulté à ce qu'on réouvre. D'ailleurs, c'est ce qu'avait voulu faire François Bayrou, le sujet des retraites. La pénibilité, les carrières hachées, etc. Et la seule question que je pose derrière, c'est comment on équilibre? Donc c'est pas un problème d'ouvrir ce débat, il n'est pas fermé, et on sait bien que de toute façon c'est un processus itérant en permanence, mais on a besoin quand même de ne pas faire semblant que ça vient creuser le trou et la dette.
Équation économique et équation politique. En tout cas, Sébastien Lecornu a tenté un coup de poker vendredi avec son annonce surprise.
J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement... d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement, d'écrire la copie. Et on le sait très bien, je défends la Ve République et sa Constitution, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debray pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'un an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition.
Une question d'Abel Mestre.
Oui, est-ce que le renoncer au 49-3, c'est pas le risque d'avoir une censure très rapide, justement?
Alors, il faudrait qu'on essaie de se mettre d'accord, pas vous, mais dans l'atmosphère médiatique et politique, on a souvent reproché aux gouvernements successifs d'abuser du 49-3. Bon, c'est un outil constitutionnel, il n'est pas illégal, il n'est pas illégitime, enfin, bref, Sébastien Lecornu l'a rappelé dans l'extrait que vous avez passé. Deuxième élément, je pense que c'est vrai que dans le moment que nous traversons, on a besoin d'essayer d'éviter de passer en force. Est-ce qu'on peut arriver à passer autrement qu'en force ? Oui, si jamais on arrive à trouver un compromis. Alors ça donne une responsabilité éminente au Parlement, parce que je vais vous dire le risque principal du non-recours au 49-3, que je trouve une bonne idée, c'est qu'à la fin on se retrouve avec des soirées comme on en a connu l'an dernier, où on met 20, 30, 40, c'est la foire à la saucisse, pardon de l'expression, de l'inventivité fiscale, et dans le même temps on fait 100 milliards de dépenses, parce que chacun sert l'écosystème. Et donc c'est un appel à la responsabilité, parce que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget, à la fin, le budget tel qu'il était sorti, 149.3, avant qu'on exige le 49.3, c'était un budget qui était votable par personne. Il était ni votable par les populistes et les démagogues, mais ni votable par le bloc central que nous constituons. Donc, si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, le chemin le plus risqué, c'est celui que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, que ce texte ne puisse être voté par personne, et qu'à la fin, on fasse les 12e et les ordonnances. Et donc, on se serait surdépossédé de notre
pouvoir. Le PS et les Verts disent déjà que c'est pas suffisant et que...
Mais j'ai pas dit que c'était suffisant.
Et que là, ils iront tous voter la censure.
Mais j'ai pas dit que c'était suffisant. Mais vous imaginez bien que si on arrive avec 50 milliards d'impôts supplémentaires et 100 milliards de dépenses supplémentaires d'abord, je vais faire des additions et des soustractions, on creuse le trou, c'est ce qui s'était passé l'an dernier, et deux, c'est pas votable, parce que c'est une question de responsabilité. Donc, j'entends absolument l'idée chez les uns et les autres que ça n'est pas suffisant, mais simplement la balle est dans le camp encore plus du Parlement. Et c'est au Parlement de faire en sorte que le budget soit votable par ceux qui sont les plus modérés.
Et obstruction, comment on fait ?
Bah on verra, mais moi j'essayerai en tout cas à toute force.
On verra, il y a plein d'outils constitutionnels, il y a l'article 40, il y a les ordonnances, il y a le vote bloqué, vous pourrez l'utiliser ça ?
Mais enfin l'article 40, pardon, je suis regret de dire que je regrette tous les matins que l'article 40, on ne l'applique pas à l'Assemblée, parce que je vais vous dire ce qui se passe sinon. On n'applique pas l'article 40, et puis quand ça s'est déféré au Conseil constitutionnel, on dit c'est la République des juges, le Conseil constitutionnel a refusé cet amendement parce que c'était un article 40.
Non, mais est-ce que vous utiliserez le vote bloqué, par exemple, ou éventuellement les ordonnances pour faire adopter le budget ?
Je ne suis pas chef du gouvernement, ne me demandez pas ça, mais je ne crois pas que la philosophie du Premier ministre soit une philosophie de faire de la filibuste, de louvoyer.
L'article 40, c'est l'article qui interdit,
d'engager de nouvelles dépenses, sauf si le gouvernement l'autorise. Vous avez raison de le rappeler.
Est-ce que du coup, il y a un accord caché entre le socle commun et le Rassemblement national ? On a vu cette semaine, à l'Assemblée nationale, que pour les postes clés, il y avait eu entente entre le RN et le socle commun obtenir des postes.
On va essayer de distinguer
les choses. Marine Tondelier sur BFM
à l'instant. C'est un petit jeu auquel personne ne devrait se livrer. Premier élément, on a fait le Front Républicain, je l'assume. Parce que nous ne souhaitions pas, et les Français ont répondu à cet appel, que le Rassemblement national ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'était ça l'objectif. Deuxième élément, il n'y a pas de sous-députés.
Enfin, là, vous n'avez pas fait le Front Républicain à l'Assemblée nationale. L'année dernière, vous l'avez fait, mais là, vous ne l'avez pas fait.
Parce que si vous aviez suivi ce que j'avais dit l'année dernière, je pensais qu'il était légitime et juste que le Rassemblement national soit représenté dans les instances de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ce schéma où on dit vous êtes député, mais vous êtes des sous-députés. Vous n'existez pas, en fait. C'est-à-dire, il y a 140 députés. Je dis au passage que d'ailleurs, le mouvement démocrate lui-même n'était pas représenté. Qu'est-ce que c'est que ce choix ? C'est-à-dire qu'on fait un choix par-dessus le choix des électeurs. On peut essayer de convaincre...
Sauf qu'en un an, vous avez changé de pied.
Moi, je n'ai pas changé... Pardon.
Alors, le socle commun a changé de pied.
Excusez-moi, continuellement, depuis 2022, nous considérons que ce sont nos adversaires, mais que... Ils ont été élus par les Français.
Non,
c'est ça
coup,
la
y
démocratie.
Suspicion. Si y on veut aller, où... qu'il y a un accord plus global.
Non, il
n'y
a pas d'accord. Est-ce qu'il y a un accord plus global? Non, mais il n'y a pas d'accord.
Est-ce qu'il va y avoir des accords dans l'hémicycle sur le budget, sur certaines
mesures? Si Madame Tondelier veut se trouver des excuses pour censurer, libre à elle. Mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. La question, c'est le fond, le sujet, c'est le programme, c'est le budget. Il ne peut pas y avoir d'accord avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national, il propose une seule chose.
Accorder les bonnes grâces du Rassemblement national. Ça. C'est une bonne base de départ, quand même.
Pardon, excusez-moi de vous dire. Je répète, en 2022 et en 2024, le mouvement démocrate, parce que nous sommes attachés au pluralisme. Le pluralisme, c'est pas pour les autres et jamais à soi qui s'applique. Nous avons considéré qu'il devait y avoir des gens de la France insoumise au bureau et des gens du Rassemblement national. Et puis, tous les autres. Je suis élu régional dans ma région. Vous croyez qu'à la commission permanente, qui, elle, prend des décisions sur le fond. On n'a pas fait une liste commune avec le Parti Socialiste et le Rassemblement National pour composer cette commission permanente. Et c'est un président socialiste qui l'a fait. Donc, faut un peu sortir de l'hypocrisie. Dernier élément. Nous sommes à l'Assemblée Nationale. Il paraît qu'on fait la loi. Bon. Le mieux quand on fait la loi, c'est de respecter son propre règlement. Il est marqué dans le règlement de l'Assemblée Nationale que les groupes doivent être représentés au bureau. Ça doit tendre vers une représentation proportionnelle.
Il n'y a pas eu d'accord.
Sinon, il faut.
C'est ça que vous dites. Marc Fesneau, vous dites, il n'y a pas eu d'accord.
Ah non,
et Marine Tondelier. Et Marine Tondelier n'a pas un point quand elle dit il va y avoir accord et c'est
non,
comme ça que...
Mais non, parce que là, enfin, franchement, vraiment pas...
Il y a un pacte.
Vraiment pas
le mot, c'est
pacte. Il ne faut pas aller chercher des mots qui ne sont pas vrais. Depuis le début, 22, 24, 25, et je suis heureux que nous soyons tous tombés d'accord sur l'idée qu'il fallait que tout le monde soit représenté au bureau de l'Assemblée nationale. C'est sain en démocratie que même les adversaires, parce que le jour où vous faites ça, le jour où le Rassemblement national est majoritaire, vous lui donnez toutes les clés pour qu'il dise il n'y aura aucun opposant au sein du bureau. C'est aussi, vous pensez à ça, à ces actes quand on respecte la démocratie. Donc il faut aussi respecter l'esprit et la lettre de la démocratie, et l'esprit et la lettre, c'est celui-là. Et l'esprit et la lettre de la démocratie, c'est quand on n'est pas d'accord sur le fond, on bataille. Et c'est ce qu'on va faire sur le budget. Parce que la réduction, en fond, le retrait de l'Union européenne du Rassemblement national, c'est non merci. La recherche de boucs émissaires, les immigrés ou d'autres, c'est non merci.
La suppression de la contribution à l'Union européenne, ça a été voté l'année dernière dans l'hémicycle.
Vous connaissez le système dans lequel vous dites ça veut dire que vous sortez. À ce moment-là, il faut faire comme Trump. Trump, il dit je participe plus.
Ou la réduction.
Oui, non, mais on a des engagements européens. S'il y a une réduction, il y aura une réduction sur d'autres budgets. Sur quel budget on va réduire? Et je rappelle que Amélie Montchalin et François Bayrou avaient négocié avec l'Union européenne une réduction au mois de juillet-août d'1,5 ou 2 milliards d'euros. Donc faut pas chercher des expédients. Ça s'appelle des expédients. Si on veut être sérieux, il n'y a pas un président de la République, un Premier ministre qui peut assumer de sortir dans l'Union européenne. Il y en a quelques-uns qui sont dans le débat public, qui disent le Frexit, c'est formidable. Demandez aux Anglais comme ça a été formidable.
Marc Fesneau, quand même, quand on vous écoute, donc là, la gauche dit on va droit vers la censure. Vous dites pas d'accord, pas de pacte avec le Rassemblement national. Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger tout droit vers une dissolution?
La base, c'est pas de pacte avec le Rassemblement national et pas de pacte avec LFI. Il y a quand même un espace entre les deux.
Apparemment.
Il reste 400 voix.
Olivier Faure dit.
Mais.
Ça tient à eux, et apparemment, ils sont prêts à aller à la censure.
Essayons de sortir des postures les uns et les autres, et Olivier Faure et son groupe, enfin, c'est M. Vallaud qui le préside, on a trouvé des terrains d'entente sur des questions fiscales l'an dernier. Donc nous, vous nous trouverez toujours pour essayer de tendre la main, essayer de trouver sincèrement
des accords. C'est surtout le conclave des retraites qui avait permis d'avoir l'assentiment des socialistes, et il va falloir trouver autre chose cette année.
Mais on va essayer de trouver des choses sur le budget, sur ce qui serait une forme de justice sociale et fiscale. Il me semble que je trouve que leur revendication sur le pouvoir d'achat est une revendication légitime. On a un sujet dans ce pays d'une feuille de salaire brut versus net qui est beaucoup trop différentielle.
Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas assez? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que Olivier Faure menace de censure. Donc ça veut dire que là, dans les annonces qui ont été faites, le compte n'y est pas.
Ça revient à la discussion juste avant. Il n'y a pas de 49-3, on est d'accord? Donc on va essayer comme des gens adultes et un peu à la hauteur de l'enjeu, comme vous le disiez tout à l'heure.
Donc vous pensez que si on baisse la CSG, par exemple, si on baisse les cotisations sociales sur les feuilles de paie pour augmenter, par exemple, la CSG, ça peut suffire? Vous pensez que c'est un élément négociation suffisant avec le PS?
Dire quel est le point équilibre sur une seule mesure.
Mais
vous avez raison. Mais il faut qu'on essaie de trouver différents types. Il y a la question fiscale, il y a la question de la feuille de paye, il y a la question de où est-ce que sont faites les économies. Voilà, c'est là-dessus qu'on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que sinon.
Dissolution.
Sinon, il n'y a d'abord pas de budget. Parce que pas de budget, c'est du retard pour les investissements des collectivités, c'est du pilotage qui n'existe plus pour les politiques publiques, c'est une incertitude immense pour les investisseurs, et on a besoin d'investisseurs dans ce pays, et tout ça, c'est une catastrophe.
Donc, il y a eu une loi spéciale l'année dernière, et le pays n'était pas à l'arrêt.
Oui, enfin, il y a eu un budget à partir du mois de février, parce que François Bayrou a trouvé un accord avec, en partie, les socialistes. Donc, il a fini par avoir un budget.
Mais soit par ordonnance, soit par loi spéciale,
Exemple, sur la question de défense, vous ne pouvez pas engager des efforts supplémentaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez que continuer le budget tel qu'il a été fait en 2025. La responsabilité politique, c'est de porter des politiques et pas de continuer d'une année sur l'autre comme si de rien n'était. Il y a des choses qui se passent dans le monde quand même.
Marc Fesneau, on avance à l'Assemblée nationale. Vous siégez aussi dans la Commission des Affaires étrangères. Alors, on voudrait connaître votre regard sur ce fait majeur qui les pourparlers aujourd'hui au Caire entre des négociateurs israéliens et du Hamas autour du plan de paix de Donald Trump. Nous sommes 2 ans après l'attaque du Hamas contre Israël. C'était le 7 octobre 2023. Question de Brigitte Boucher.
Marc Fesneau, est-ce que cet accord finalement de paix entre Israéliens et Palestiniens, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à Emmanuel Macron?
En tout cas, le président de la République a joué un rôle majeur en embarquant, pardon de l'expression, un certain nombre de pays pour fixer un certain nombre de lignes rouges, qui était, je rappelle que le plan de paix initial, ou entre guillemets de paix initial de Donald Trump, c'était l'évacuation de toutes les populations palestiniennes pour faire un, entre guillemets, Eldorado à Gaza. Bon, on est désormais sur quelque chose qui ressemble à une trajectoire. Et c'est pas complètement innocent après la décision du président de la République, que je trouve juste, d'avoir reconnu l'État palestinien,
c'était
et surtout
bon
de ne pas l'avoir fait seul. Ce qui était important, c'était de le faire au moment où nous étions plusieurs dans le concert des nations occidentales à dire et à faire ce geste. Et donc, je pense que ça a pesé dans la balance, y compris sans doute côté israélien, parce que je ne crois pas que l'intérêt de l'État d'Israël soit d'être isolé à ce point-là.
Mmh. Est-ce pour qu'on peut le faire moyen confiance aussi aujourd'hui au Hamas quand il dit qu'il va libérer les otages?
Par nature, on a du mal à faire confiance au Hamas. Reconnaissons qu'il n'a jamais été au rendez-vous de la responsabilité, il a plutôt été au rendez-vous du terrorisme et des crimes. Simplement, il a un peuple derrière lui, et puis il y a d'autres autorités, et je pense que le plan présenté par Donald Trump est un plan qui peut permettre d'entrevoir un chemin pour les populations des deux rives, si vous me permettez cette expression.
Autre actualité à l'international, la tension qui monte entre les Européens et la Russie. Un pétrolier soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe a été arraisonné cette semaine au large des côtes françaises. Il y a aussi ces incursions de drones. On a vu ces milliers de voyageurs coincés à l'aéroport de Munich parce que, comme en Pologne, comme en Norvège, comme au Danemark, il y avait eu des drones dont on pense qu'ils sont russes. Est-ce qu'il faut marquer l'arrêt et répondre à ces provocations, dont on pense qu'elles viennent de la Russie, ou ne rien faire, Marc Fesneau ?
Je pense qu'à un moment, on est obligé de marquer l'arrêt, parce que vous êtes quand même avec, s'il s'avère que c'est les Russes, mais globalement, enfin, on voit bien que dans un certain nombre d'opérations, y compris des opérations de déstabilisation, on a vu ce qui s'était passé devant des mosquées avec des têtes de porc, il y a quand même... L'intention russe, c'est de mettre la pagaille à l'intérieur de nos frontières européennes, par des voies, c'est ce qu'on appelle les guerres hybrides, c'est-à-dire que ça se fait jamais avec des chars, mais ça se fait par des voies hybrides, alors ici des drones, alors on neutralise un aéroport, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Alors je crois
c'est quoi, c'est le mur de drones, c'est qu'est-ce que c'est?
Oui, mais enfin le mur de drones, voyez bien que le bateau, s'il est il a passé de l'autre côté et qu'il vient par la mer Baltique ou qu'il vient par ailleurs, c'est un peu plus compliqué
ça. Ça veut dire que la voix de l'Europe ne porte pas suffisamment face à Vladimir Poutine?
Enfin, le président de la République, pour le coup, porte singulièrement une voix. Il faut que les Européens s'entendent et se parlent entre eux.
Mais justement,
et qu'ils décident enfin, alors c'est valable sur la question russe comme sur les autres questions, de prendre en main leur destin, parce que notre destin, c'est une question, je pense, de vie ou de mort, cette affaire-là. De même que sur les sujets commerciaux. Je n'ai pas aimé la façon dont nous n'avons pas... Alors, le « nous » est sympathique, c'est un peu un « nous » de majesté, parce que nous n'étions pas dans ces conversations-là. Mais que la présidente von der Leyen aille dans un golf privé, en extra-européen, aller à Canossa, on est passé sous les fourches caudines de Trump, ça n'est pas l'image que je veux de l'Europe. Parce que nous avons fait l'Europe pour qu'elle soit puissante. Puissante face aux agressions, puissante commercialement.
L'Europe de la défense, c'est encore d'actualité? Comment on peut la relancer?
Il faut que, là aussi, les uns et les autres sortent de l'ambiguïté et de la sincérité. C'est-à-dire que l'Europe de la défense, c'est nécessairement des projets industriels communs en termes de défense, dans lesquels on ne cherche pas à tirer son avantage, que collectivement, on a besoin de la construire et de ne pas être dans les mains uniquement de l'allié. Là aussi, on peut le mettre entre guillemets américain. C'est la meilleure façon de construire une Europe de la défense, que c'est notre autonomie stratégique. Je note avec satisfaction que ce qu'avait dit le président de la République, lui aussi, à l'époque, y compris dans son discours de la Sorbonne, c'est l'affirmation de cette Europe de la défense avec des moyens supplémentaires de beaucoup de pays. Et donc, on a besoin de conforter ça, parce que sinon, en fait... Poutine teste en permanence notre résistance. Et à un moment, on ne peut pas laisser faire ce qui est en train de se faire sur le territoire.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique.
Marc Fesneau, le patron des députés MoDem à l'Assemblée nationale, est l'invité de Questions politiques. On va tenter de mieux vous connaître aujourd'hui, Marc Fesneau, et celle qui dévoile nos invités, c'est Brigitte Boucher qui a fouillé votre bio.
C'est un jeune homme politique pour qui j'ai de l'estime et même de l'affection. Je voulais qu'une nouvelle génération puisse arriver aux responsabilités dans notre mouvement dont c'est une des vocations.
On vient d'entendre François Bayrou, celui qui vous a mis le pied à l'étrier. Marc Fesneau, vous avez milité chez les Jeunes Démocrates, adhéré à l'UDF puis au MoDem, précurseur d'En Marche, avant-gardiste du En Même Temps et de droite et de gauche. Cet entre-deux qui vous caractérise jusque dans votre couleur de cheveux, et roux et blond. Je sais qu'il y a débat, mais moi j'ai toujours pensé que vous étiez blond vénitien. Et c'est une teinte impossible à obtenir quand on cherche à faire une couleur chez le coiffeur, je vous le dis. Votre famille
mais
habite
ça rassurera tout le monde, oui.
Votre famille habite dans le Loir-et-Cher et vous ne faites pas de manière. Vous avez été ministre de l'Agriculture, alors vous, ça ne vous gêne pas de marcher dans la boue et de dîner avec nous. Est-ce que vous êtes fan de Michel Delpech ?
Oui, alors sauf la chanson de Michel Delpech qui traite dans le Loir-et-Cher, du Loir-et-Cher, mais le reste, on est fan, d'abord parce qu'il était résident du Loir-et-Cher, c'est un grand artiste. Mais nous, dans le Loir-et-Cher, on avait un peu du mal avec cette chanson, pour être très honnête.
Vous avez baigné depuis votre enfance dans le monde agricole par votre père qui travaillait à la Sopexa et puis qui a conseillé aussi Michel Rocard au ministère de l'Agriculture. Est-ce que ça confirme les accusations de pro-FNSEA qui vous ont été faites, notamment quand vous étiez au ministère de l'Agriculture ?
L'attention et, comment dirais-je, la connaissance d'un milieu ne fait pas... D'ailleurs, vous pourrez en parler à la FNSEA. Je ne suis pas sûr que ça fasse une accointance de cette nature-là. Qu'on parle avec tout le monde et tous les syndicats, et deux, qu'on ait une attention à l'écosystème dont on a la charge, ça me paraît la moindre des choses. Ça n'est pas le hasard que je me sois retrouvé au ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas simplement une affaire de carrière, c'est une affaire de conviction. J'ai commencé ma carrière dans une chambre d'agriculture. J'étais loin de penser qu'un jour je serais ministre de l'Agriculture, donc je l'ai fait parce que c'est une profession qui mérite qu'on s'y intéresse, qu'on s'y attache, qui est parfois un peu rugueuse et un peu difficile, mais qui a des défis immenses dans lesquels il faut les accompagner. Donc moi je suis très attaché et je continue à l'être. C'est pas un moment dans ma vie de ministre de l'Agriculture. Mon intérêt à l'agriculture, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu agricole, parce que je trouve que c'est une profession qui est trop méconnue, souvent à tort, vilipendé, et à juste titre, on devrait la reconnaître dans ses fonctions premières qui sont celles de nous nourrir.
C'est pour ça que vous avez défendu le glyphosate ?
Oui, parce que j'ai défendu l'idée que nous ne pouvons pas, dans une politique agricole commune, avoir des politiques différentes. C'est pas la peine d'avoir des frontières ouvertes avec nos voisins italiens et allemands quand eux, leurs agences de sécurité sanitaire, y compris la nôtre d'ailleurs, ne disaient pas autre chose qu'on pouvait en réduisant les
doses. Donc vous le referiez ?
Oui, il me semble que c'est une logique. Alors après, vous savez, j'ai beaucoup été... c'était pas le glyphosate d'ailleurs, c'était l'acétamipride, je pense, dont vous me parlez. Mais je fais très attention, j'avais dit aux responsables agricoles, attention à ce que nous ne produisions pas des textes. Ça revient presque au début de notre conversation, qui viennent fracturer ce pays. Aucun intérêt à ce qu'avec une population de 300 et quelques mille agriculteurs, l'ensemble de la population vienne se dresser contre eux. Donc on a besoin de faire comprendre ce qui se passe, et aux agriculteurs et à nos concitoyens, et de dire pourquoi on prend cette décision. Et puis le mieux, c'est de l'éclairer par la science. C'est comme ça qu'il faut cheminer.
Vous appartenez au mouvement démocrate chrétien. Comment on atterrit là si on n'est pas croyant ou pas pratiquant ?
Après, mes convictions personnelles n'intéressent personne et je les ai pour moi, mais j'ai une tradition dans ma famille de croyants et pratiquants pour un certain nombre d'entre eux. Pas moi, mais on atterrit là parce que je pense que c'est une famille politique où la question de l'humanisme et de la place de l'homme dans la société est une question assez centrale, et du respect de l'autre. Et donc je trouve que ces valeurs-là, on n'a pas besoin d'être croyant, pratiquant ou même d'être de cette religion-là pour considérer que cette religion... elle incarne un certain nombre de valeurs qui sont plus que jamais d'actualité.
Vous êtes la figure actuelle du MoDem. Est-ce que le bayrouisme sans Bayrou est possible ? Est-ce que vous allez vous affranchir de la tutelle de François Bayrou un jour ou l'autre ?
François Bayrou le dirait mieux que moi. Il vous dirait que je suis peu avec tutelle. Jacqueline Gouraud, qui est aussi l'une de mes mentors, vous dirait que j'ai une indépendance qui se confirme assez régulièrement quand il y a besoin de le faire.
Mais quand est-ce que vous allez tuer le père ?
Deuxième élément, vous dites bayrouisme. Personne n'a jamais dit bayrouisme. On a toujours dit le centre, les valeurs du centre. Le mouvement démocrate, on est une famille politique.
La réalité, c'était le Bayrou.
Oui, mais ça prouve que la famille politique que nous incarnons et qui a été incarnée jusqu'alors par François Bayrou, elle n'est pas seulement incarnée par une personne. Bayrou, il a été là à un moment où cette famille de pensée aurait pu disparaître. Et il continue à incarner cette famille de pensée. Et donc, ce n'est pas une affaire seulement de personnes, c'est une affaire de longues traditions dans la vie politique française d'avoir une famille modérée. Et nous sommes chacun, là aussi, comme le colibri, à faire notre œuvre et notre travail.
Marc Fesneau, pour compléter ce portrait, nous vous avons demandé de venir avec une carte blanche et vous avez choisi de parler de la jeunesse et de la jeunesse occidentale tentée par l'autoritarisme.
Oui, non, je trouve que nous sommes dans un moment, alors il n'y a pas que la jeunesse, mais la jeunesse c'est l'avenir. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont tentés par les figures plutôt autoritaires et plutôt par la volonté d'avoir des débats un peu tranchés, noirs ou blancs. Où on essaie de, non pas de convaincre, mais de contraindre l'autre. Et on voit bien, il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent Donald Trump. Il y a beaucoup de gens pour qui la figure de Poutine est une figure un peu emblématique. La loi de la force s'impose. Et je pense qu'on a besoin de travailler avec les jeunes pour dire qu'il n'y a pas de solution, me semble-t-il, et historiquement c'est avéré, qui passe par l'écrasement de l'autre. Alors c'est d'ailleurs assez paradoxal, parce que les jeunes sont sans doute beaucoup plus ouverts que nous n'étions sur beaucoup de sujets. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des replis identitaires, entre guillemets, de la jeunesse, les uns avec l'extrême droite, parfois les autres...
Est-ce que c'est parce que les leaders politiques sont faibles aujourd'hui ?
C'est pas impossible que le fait que les figures politiques incarnantes soient plutôt aux extrêmes explique que nous n'arrivions pas. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir des figures incarnantes à droite, à gauche et au centre pour essayer de porter une voix forte sans être une voix de la radicalité qui mène au mur, absolument.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de différent aux jeunes dans le sondage YouGov publié en juillet, c'est une enquête. En France, seul un jeune sur deux préfère sans réserve la démocratie aux autres systèmes politiques. Seulement un sur deux.
Et c'est toute la difficulté, l'histoire passant. Les témoins de des moments où nous n'avons pas vraiment eu la démocratie, ou ce qui a abouti à l'absence de démocratie ou une démocratie défaillante, c'est-à-dire la guerre, les témoins disparaissent les uns après les autres. Donc on a besoin pas seulement d'être dans la mémoire, c'est... Si vous voulez pouvoir exprimer vos idées, si vous voulez qu'il y ait plus de justice entre les hommes et les femmes, si vous voulez que tout ça ne mène pas au chaos, parce que du chaos, il ne sort rien, jamais. En tout cas, il sort beaucoup de malheur. Il faut qu'on essaie d'expliquer que la démocratie, comme le disait, je crois, Churchill, c'est la meilleure organisation à défaut de toutes les autres. Et que...
Mais si elle ne délivre pas si...
Oui, mais c'est pour que c'est ça que notre responsabilité, ça nous amène à notre début de conversation, c'est notre impuissance, notre immobilisme, notre incapacité à avoir des mots qui ne soient pas le mot de la technocratie.
Est-ce que ce n'est pas la pratique des institutions aussi qui a été faite ces derniers temps?
Alors, c'est pas que la pratique des institutions. On a aussi besoin d'inventer un modèle institutionnel. D'ailleurs, c'est assez singulier que le Premier ministre dise plus de 49-3, parce que institutionnellement, ça existe. Ça prouve que la question du passage en force et de la méthode est un sujet central. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la méthode à repenser, et sans doute d'un point de vue institutionnel. Pour moi, c'est un débat de 2027 de regarder institutionnellement comment on peut améliorer les choses. On a une constitution qui est formidable, moi, je trouve, et qu'il faut toucher avec précaution. Et si on doit la toucher, c'est pas la peine de rajouter des articles, comme on le fait à chaque fois, pour se faire plaisir. Il faut essayer de penser ce que peuvent attendre les peuples en termes de démocratie, c'est-à-dire des mécanismes de régulation. Mais beaucoup pensent que c'est un mécanisme d'entrave. Et donc, il faut expliquer sans relâche pourquoi il y a de la régulation, pourquoi il y a des juges, pourquoi il y a un conseil constitutionnel, pourquoi il y a des scientifiques.
Question politique sur France Inter.
Débat 2027, justement, avec une question qui sera au cœur des discussions de la présidentielle. Ce matin, Abel, c'est la question du centrisme.
Oui, savoir s'il existera encore en 2027, à la prochaine présidentielle. Quand on regarde les prétendants à l'Élysée, il y a Édouard Philippe, il y a Gabriel Attal, sûrement peut-être Gérald Darmanin, peut-être François Bayrou, peut-être vous-même d'ailleurs, on ne sait pas. Est-ce que le centrisme, est-ce que ce bloc central, cette famille, ne risque pas la dilution à se diviser de cette manière?
Alors, il y a deux sujets. Il y a un, la division de ce bloc-là, c'est la mort de ce bloc-là. Mais nous sommes un peu loin de Laval, et peut-être que tous les noms que vous citez ne seront pas ceux qui figureront à l'arrivée. Peut-être que la raison l'emportera, que les choses s'imposeront les uns aux autres. Quand vous regardez, vous m'auriez interrogé en octobre 2015, vous auriez cité des noms dont aucun n'a pu concourir. Donc
il faut une primaire, selon vous?
Comment?
Il faut une primaire?
Non, je suis contre la primaire, parce que la primaire, en fait, c'est un mécanisme où vous venez entretenir votre radicalité interne, à droite, à gauche, au centre, et après, vous êtes incapable de vous ouvrir. Moi, je pense que la primaire, ça peut pas être un processus. C'est aux Français de choisir leur candidat. La primaire, en France, c'est le premier tour. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait une multiplication de candidatures pour se compter. Mais aux États-Unis, il y a une primaire, mais il n'y a qu'un tour. Et il n'y a que deux partis politiques. En France, il y a une diversité d'opinions. Donc il y a besoin de ça. Et deux. Alors ça, c'est la première question, c'est les personnes. Puis la deuxième, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une force qui porte à la fois fort, mais aussi dans la nuance, un certain nombre de responsabilités et de propositions? Oui, parce que je pense que si vous laissez simplement s'exprimer ceux qui nourrissent la querelle, qui essaient d'activer chez les Français la querelle, la recherche du bouc émissaire facile, l'immigré, le fonctionnaire... le chef d'entreprise, évidemment, il manquera quelque chose dans le paysage.
Vous visez qui en disant ça?
Comment?
Qui vous visez?
Je vise le Rassemblement National et la France Insoumise. Enfin, je les ai déjà visés dans l'interview. Il me semble que ce sont des forces qui nourrissent dans chacun de leurs discours la recherche du bouc émissaire. Et je trouve que la recherche du bouc émissaire, quel que soit le bouc émissaire, c'est ici le juge. On l'a encore vu ces derniers jours. Je trouve que tout ça, c'est toxique. Et donc, il y a besoin d'une force qui considère qu'il y a besoin de plus de nuances dans la démocratie.
Justement, ce discours de nuance, cette force modérée que le MoDem porte depuis toujours, est-ce que c'est encore d'actualité? Dans la mesure où on voit que le Parti Socialiste s'est désarimé de la France Insoumise, a pris son indépendance, mais en tout cas son autonomie, réincarne la social-démocratie. On voit aussi que Sébastien Lecornu a beaucoup d'attention pour LR. Comment le MoDem peut exister? Qu'est-ce qui va vous différencier d'une offre social-démocrate qui peut être incarnée par quelqu'un de gauche?
D'abord, c'est une bonne nouvelle, et je le disais dès 2017, qu'une gauche de gouvernement a une responsabilité...
Et notamment par Raphaël Glucksmann, est-ce que vous avez des grandes différences avec lui ou...
Mais d'abord, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'une gauche de gouvernement et de responsabilité émerge, et je suis de la même façon content que côté LR, il y a un certain nombre de forces, je pense à Bruno Retailleau, qui, avec des différences notables entre nous, prennent leurs responsabilités. Parce qu'en fait, le 2017 a été un épisode où ces deux forces politiques se sont totalement déresponsabilisées. Sans doute à l'époque, d'ailleurs, nous n'avons pas assez étendu la main. Moi, je l'avais dit dès 2017. Parce qu'on a besoin d'une gauche, d'une droite, d'un espace central. Et nous, nous sommes là aussi pour essayer de cultiver ce dialogue. Donc il y a besoin des trois forces pour éviter que sinon, on soit simplement dans le choix, non pas cornélien, mais dramatique, entre LFI et le Rassemblement National. Donc on a une place. Et est-ce qu'on peut avoir des points de convergence avec Raphaël Glucksmann ? La vérité est oui.
Et vous pourriez le soutenir, par exemple ? Le MoDem pourrait soutenir une candidature Glucksmann ?
Nous sommes le mois d'octobre 2025. On finit par être perdu. Au mois d'octobre 2020.
Les choses peuvent aller vite.
Nous, les Français, ont besoin d'abord qu'il y ait un budget, qu'on essaye de faire des choses. Non, ils n'ont pas besoin qu'on fasse une présidentielle, parce que ça, c'est 6 mois de perdu, hein, tout ça. Donc, et parce qu'il ne faut pas tronquer la présidentielle, il faut qu'on ait un débat d'idées. C'est-à-dire qu'il faut répondre et que chacun puisse sortir de ses ambiguïtés, y compris Raphaël Glucksmann, sur un certain nombre de points. Parce que quand on l'entend, j'ai plutôt le sentiment, notamment le fait de désarimer le PS.
Sur quel point il est ambigu, par exemple ?
Il veut à la fois désarimer le PS de LFI, et dès qu'il y a eu un accord du NFP, il a soutenu tous les candidats du NFP.
C'était contre l'extrême droite.
Je vous parle du premier tour.
En législative partielle, là, il ne soutient pas le candidat du NFP.
Il va falloir qu'on tranche cette question, mais c'est leur problème, et ils ont le droit de le trancher comme ils veulent, mais voilà une ambiguïté. Deuxième élément, quand on dit on réduit la dette et le déficit, j'entends qu'il est plutôt à dire qu'il faut être raisonnable, est-ce qu'on peut trouver un terrain de convergence ? Donc, sur les sujets européens, on est très alignés parce qu'au fond, ils portent la voix que nous portons, nous, et c'est très bien qu'il y ait une forme de consensus avec un certain nombre de forces, à droite aussi d'ailleurs, sur la question européenne.
Vous êtes plus proche de lui que des Républicains, par exemple, sur ces questions ?
Ça dépend des Républicains, il y a un certain nombre de Républicains dont je me sens proche, mais moi, j'ai pas besoin d'être proche, j'ai besoin qu'on soit clairs les uns les autres et qu'on n'aille pas courir les uns et les autres vers nos extrêmes. Déjà, on aura fait un grand service.
D'ailleurs, avec Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, vous aviez beaucoup de points d'accroche. Ça peut être un des personnes que vous pourriez...
Mais il fait partie des personnalités avec lesquelles on a bien travaillé. Bien sûr, ça peut être un des points d'accroche. Édouard Philippe, c'est le premier Premier ministre issu de l'accord que nous avons trouvé et de la majorité qui s'est trouvée en 2017. Donc dire maintenant qu'on est éloigné, ce serait un peu faire défaut à la réalité des choses. Après, on a besoin de parler des sujets et des programmes. Et il y a beaucoup de sujets, effectivement, sur lesquels Édouard Philippe et tous ceux que vous avez nommés, on a des points de convergence.
Vous ne craignez pas, justement, que, en même temps d'Emmanuel Macron, qui rappelait le centre indépendant de François Bayrou, qu'après 10 ans d'exercice de pouvoir, le bilan soit globalement négatif et démonétise ce concept de centre politique, de centrisme politique.
Mais j'ajoute qu'il y a un sondage cette semaine, IFOP, hein, qui dit tout le délitement du bloc central. C'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui sont en tête des intentions de vote de très loin.
Mais il n'est pas nouveau dans la vie démocratique que quand vous exercez le pouvoir, vous y perdez les plumes plutôt que vous en gagnez, en particulier quand vous avez traversé des périodes de crise. Bon. Deuxième élément, on a souvent galvaudé la question du en même temps, mais on peut à la fois essayer de faire plus de justice fiscale, on en parlait au début de notre conversation, et faire plus de redistribution et défendre les entreprises. C'est ce que mènent la plupart des gouvernements d'Europe pour essayer de trouver un chemin, parce qu'il n'y a pas un chemin où tout le monde a raison tout seul. On ne peut pas dire à la fois, comme le dit très bien Sébastien Lecornu, il ne faut jamais passer en force, vous ne gagnez jamais avec 90% des voix. Donc vous avez besoin, pour embarquer les populations, de trouver des points de convergence et de compromis sur l'Europe, sur la dette et le déficit, sur la justice, sur les questions de sécurité. Et c'est le point de convergence des autres. C'est pas la disparition des identités. On a besoin que les identités soient reconnues.
Est-ce que pour vous renforcer, vous devez vous fusionner avec l'UDI ?
Je discute beaucoup avec Hervé Marseille. Après, il faut qu'il y ait une volonté réciproque. Mais je trouve que l'horizon sans faire de mauvais jeu de mots, l'horizon pour les centristes, c'est plutôt d'être rassemblés plutôt qu'émiettés et que j'y travaillerai sans relâche parce que je pense que c'est pas l'intérêt partisan. Cette affaire-là, c'est un intérêt de lisibilité. Alors, pour le coup, avec Hervé Marseille, nous avons à peu près des points d'accord sur tout. Lui au Sénat et moi à l'Assemblée nationale. Donc, faut quand même saluer ce travail qu'on arrive à faire ensemble. Il y aurait une logique d'un point de vue partisan à ce que les choses convergent.
Allez, le vrai faux, Marc Fesneau, on arrive à la fin de cette émission. Une minute de lâcher prise, je donne des affirmations, vous dites vrai ou faux. Vous serez au gouvernement Lecornu, vrai ou faux ? Votre montre est toujours en avance de 15 minutes, vrai ou faux ? Ce serait une bonne idée de carrément supprimer le 49-3.
Faux.
Vous parlez régulièrement à une intelligence artificielle ?
Non.
Sébastien Lecornu est plus stratège que François Bayrou, vrai ou faux ?
J'attends de voir.
Vous êtes chasseur, vous chassez à l'arc, vrai ou faux ?
Vrai.
Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Cette phrase de Bruno Retailleau, vrai ou faux ?
C'est compliqué de répondre par vrai ou faux. Ça dépend de ce qu'on appelle le macronisme. Si le macronisme, c'est les forces centrales et les nécessités de faire converger, d'avoir un peu de modération dans le débat public, faux.
Vous souhaitez que François Bayrou soit candidat à la prochaine présidentielle.
On attendra 2027 pour réfléchir à tout ça.
Il y a un monde dans lequel vous seriez prêt à lâcher la politique pour devenir agriculteur.
Vrai.
Robert
ou autre chose.
Robert Badinter, au Panthéon jeudi prochain, il faut dégenrer la devise au fronton du Panthéon.
Faux.
Merci Marc Fesneau d'avoir accepté l'invitation de Questions Politiques. Merci à la grande équipe de cette émission. À tous, un excellent dimanche.